19h et non pas 20h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Vous avez des groupes qui perdent 300, 400, 500 000 euros, voire beaucoup plus hein, par mois. Ce qui n'était pas fait préalablement parce qu'on ne pensait pas que la crise allait durer aussi longtemps.
Et la détresse des hôteliers restaurateurs, donc ils ne voient pas le bout du tunnel. Réunion à Bercy cet après-midi et toujours aucun horizon pour une réouverture.
Vaccin, va-t-on rattraper notre retard? De nouvelles catégories et de nouvelles tranches d'âge pourront se faire vacciner plus vite que prévu.
Mais cela sera-t-il suffisant? C'est la question du consentement qui pose problème, disait à la mi-journée sur Europe 1 le professeur Alain Fischer, le président du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il faut simplifier la procédure.
Oui, alors qu'une trentaine de médecins de renom, dont le médecin européen Jimmy Mohamed, signe aujourd'hui une tribune pour interpeller le gouvernement.
Ce démarrage trop lent n'a selon eux aucune justification médicale ou scientifique.
Dans notre journal également, Didier François, spécialiste des questions internationales, nous parlera de cette nouvelle provocation de l'Iran qui a repris ses activités d'enrichissement d'uranium.
Une décision qui pourrait avoir de terribles conséquences sur la stabilité de la région. Et puis on vous emmènera écouter de la musique classique au musée d'Orsay à Paris. Enfin sur votre canapé, mais au musée d'Orsay quand même.
Eh bien c'est déjà pas mal. Anissa, vous nous annoncez, vous, le retour du soleil. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
Oui, ça fait du bien de revoir un peu de soleil et d'avoir un peu de vitamine D. Demain, sur toute la moitié sud du pays, il va briller généreusement. Mais attention, le froid est toujours bien là. Et dans le nord-est, c'est encore bien l'hiver avec de la neige. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il compte les jours depuis la fin octobre et il risque de compter encore quelques temps. Les restaurateurs espéraient une réouverture de leurs établissements le 20 janvier, date évoquée hein, par Emmanuel Macron.
Oui, sauf que cet horizon s'éloigne, c'est confirmé. Les restaurateurs ont été reçus à Bercy cet après-midi et malheureusement, Carole Ferry, aucune perspective ne se dessine pour l'instant.
Effectivement, absolument aucune perspective de réouverture. Le doute reste entier, notamment sur la question des vacances de février. Les restaurateurs espéraient obtenir au moins une dérogation dans les zones vertes depuis le début de l'épidémie, mais la porte est restée totalement fermée. Selon le président du GNI, le Groupement National des Indépendants de l'Hôtellerie-Restauration, Didier Chenet, le ministre de l'Économie s'est montré très soucieux de la situation sanitaire, tout en ayant bien conscience de l'impact sur leur secteur.
Là, je tiens à le dire, c'était un soutien extrêmement marqué pour notre profession, nous disant bien que le soutien et les mesures qui ont été prises au mois de décembre seraient maintenues, mais voire même aménagées et, je dirais, élargies, car aujourd'hui, ces dispositions ne satisfont pas, bien entendu, les groupes. Vous avez des groupes qui perdent aujourd'hui 300, 400, 500 000 euros, voire beaucoup plus hein, par mois. Ce qui n'était pas fait préalablement parce qu'on ne pensait pas que la crise allait durer aussi longtemps.
Cela concerne notamment les groupes hôteliers et les chaînes de restauration. Enfin, autre sujet abordé, le remboursement des prêts bancaires. Bruno Le Maire s'est engagé à négocier avec les banques pour obtenir un report des échéances de 2 ans pour les secteurs fermés administrativement.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1 et on en parlera avec nos invités à 19h20 dans le grand débat du Club des idées.
Et pour essayer de rattraper un peu les dégâts du confinement, les commerces pourront ouvrir tous les dimanches de ce mois de janvier au département d'en décider après concertation avec les collectivités et les partenaires sociaux, précise le ministère du Travail. Les librairies ont-elles limité la casse en 2020? Les ventes du secteur reculent de 3,3% comparativement à 2019.
Concernant la campagne de vaccination maintenant, montrée du doigt pour sa lenteur, elle va être élargie aux aides à domicile âgées de 50 ans et plus et aux pompiers. Et le calendrier est également avancé de quelques jours pour les Français les plus âgés.
Victor Dolande, le monsieur vaccin du gouvernement, le professeur Alain Fischer, était l'invité de Patrick Cohen à la mi-journée sur Europe 1 et il a beaucoup insisté sur un point clé, selon lui, cette question du consentement.
Oui, un consentement qui prend beaucoup de temps dans les EHPAD, entre 5 jours minimum pour recueillir l'accord des résidents pour la vaccination et parfois jusqu'à plus de 2 semaines dans certaines maisons de retraite. La faute, selon Alain Fischer, à une surinterprétation du guide de vaccination édité par le gouvernement.
La vaccination dans les EHPAD est compliquée. Elle a peut-être été rendue d'ailleurs un peu plus compliquée par une surinterprétation de préconisations concernant les questions de consentement, de timing, etc. Il y a une simplification possible.
Pas besoin de 5 jours pour recueillir ce consentement, poursuit-il. Même la consultation pré-vaccinale a été surinterprétée, selon Alain Fischer. Il faut simplement recueillir des informations basiques, dit-il. Est-ce que la personne n'est pas malade le jour de l'injection? Est-ce que le patient n'a pas été touché par le Covid dans les 3 derniers mois? Est-ce que la personne n'a pas reçu le vaccin contre la grippe dans les 3 dernières semaines? Et enfin, est-ce que la personne à vacciner n'a pas d'antécédents allergiques graves? Pas besoin donc d'attendre 5 jours entre cette consultation et la vaccination. La cadence peut donc en principe être sérieusement accélérée dans les EHPAD et ce très rapidement.
Précision signée Victor Dolander.
Oui, le professeur Fischer n'est pas le seul à souhaiter que cette campagne de vaccination s'accélère. Une trentaine de médecins signent aujourd'hui une tribune afin d'interpeller le gouvernement.
Et vous faites partie de ces signataires. Bonsoir docteur Jimmy Mohamed.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Vous êtes le médecin d'Europe 1, alors les auditeurs vous connaissent bien. On a entendu que ça va s'accélérer hein, cette campagne de vaccination, mais vous trouvez que ça ne va pas encore assez vite et dans cette tribune, vous faites des propositions.
Oui, puisqu'on sait qu'il n'existe aucune raison scientifique ou médicale de retarder le déploiement à grande échelle de la vaccination. La vaccination, c'est une course contre la montre. On l'a débuté en vaccinant les plus fragiles, les personnes dans les EHPAD. On sait que c'est un tiers des décès, mais ça veut dire qu'il y a deux tiers des décès hors EHPAD. Et donc, il faut protéger les gens en commençant par protéger les soignants. Vacciner tous les volontaires et ne pas mettre de limite d'âge ou de comorbidité. Et puis ensuite, vacciner les personnes de plus de 65 ans qui seraient volontaires. On propose aussi d'acheter des vaccins.
Mais on pourrait en acheter où de ces vaccins ? Il y en a quelque part encore ?
On est bloqué par l'Union européenne. Et donc c'est on pourrait peut-être s'inspirer d'autres pays comme Israël par exemple, qui a fait en sorte d'acheter suffisamment de vaccins. Et je pense qu'on peut activer certains réseaux pour se débrouiller pour avoir des vaccins, quoi qu'il en coûte. Rappelez-vous de cette expression du président, c'est celle qu'il avait utilisée. Et encore une fois, c'est une course contre la montre. On a perdu beaucoup de temps. Le variant anglais est présent sur le territoire. Martin Hirsch le disait, ça veut donc dire que l'épidémie anglaise peut arriver chez nous et être transposée à Paris, en France, en Île-de-France. Et donc par conséquent, le mois de mars 2021 pourrait être peut-être pire que le mois de mars 2020 si nous ne faisons pas quelque chose rapidement. On a perdu assez de temps, il faut accélérer le mouvement.
Il y a la question du nombre de vaccins, de l'accélération de cette campagne. Et puis il y a aussi la logistique hein, qui semble un petit peu compliquée. Vous voudriez qu'elle soit confiée à quelqu'un en particulier ?
Oui, alors l'histoire de logistique, on peut le comprendre que ce soit plus difficile. Il y a la conservation, moins 80 degrés avec des super congélateurs, c'est compliqué. Mais ça reste, à mon sens, accessible et on pourrait proposer de confier justement cette opération à une task force vaccinale qui disposerait de pouvoirs un peu plus étendus pour rendre compte de façon transparente et quotidienne l'utilisation des vaccins et qu'on en sache un peu plus.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed. On vous retrouve tous les jours à 15h dans Sans Rendez-vous avec Mélanie Gomez et à 8h35 dans la matinale de Mathieu Béliard.
Merci Doc pour ces bons conseils. Et on précise que la situation sanitaire en France sera au cœur demain d'un nouveau conseil de défense alors que l'on apprend que l'Allemagne prolonge et renforce ses restrictions et cela jusqu'au 31 janvier.
Oui, ça y est, c'est fait. Les Allemands sont invités à réduire encore davantage leurs contacts. La plupart des magasins, des bars, des restaurants et les écoles vont rester également fermées.
Et on apprend qu'il y a eu plus de 20 000 contaminations en France, donc ça progresse ces dernières 24 heures. À noter que les experts de l'OMS qui sont en route pour la Chine où elle doit enquêter sur l'apparition du virus n'ont apparemment pas reçu les autorisations nécessaires pour effectuer cette mission. Concernant maintenant les conséquences économiques de cette crise, la Banque mondiale abaisse sa prévision de croissance pour 2021.
Oui, le PIB mondial devrait progresser de 4% cette année contre 4,2% annoncé en juin, la Banque mondiale qui redoute des crises de l'endettement en série. Une enquête ouverte pour viol et agression sexuelle après la publication d'extraits d'un livre mettant en cause le politologue Olivier Duhamel. Il est soupçonné d'avoir agressé son beau-fils alors âgé de 13 ans. Les faits remontent à la fin des années 80.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h09 avec Isabelle Millet. Dans l'actualité, on parle également de cette violation extrêmement grave de l'accord sur le nucléaire iranien que vient de confirmer donc l'Agence internationale de l'énergie atomique. La République islamique d'Iran a bien relancé son programme d'enrichissement d'uranium.
Et en ce, en totale contradiction avec ses engagements de non-prolifération, on en parle ce soir sur Europe 1 avec notre spécialiste des affaires stratégiques, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Didier, c'est une décision qui pourrait avoir de terribles conséquences sur la stabilité de la région.
Oui, et d'abord parce qu'elle a été imposée par les durs du régime, les mollahs les plus conservateurs, proches du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, dont on peut légitimement se demander s'il ne cherche pas à faire purement et simplement capoter toute chance de ressusciter l'accord de 2015. Ce compromis qui avait, vous le savez, permis d'obtenir un démantèlement négocié du programme nucléaire irakien. Alors, il avait certes été dénoncé par Donald Trump, mais Joe Biden a clairement fait savoir qu'il était tout à fait disposé à y revenir. Il est donc très inquiétant de voir que cette décision a été prise 2 semaines seulement avant l'entrée en fonction du nouveau président des États-Unis et alors que Donald Trump est toujours à la Maison-Blanche, toujours en capacité de réagir très brutalement à une telle provocation parce que l'enrichissement de l'uranium à 20% ne peut avoir qu'un seul et unique objectif, créer un stock de matières fissiles de qualité militaire pour réaliser des têtes nucléaires. Un isotope d'une telle qualité n'a aucune utilité civile, ni dans le domaine de la recherche, ni dans la production d'électricité. Si les dirigeants iraniens remettent en fonctionnement les cascades de centrifugeuses installées dans l'usine souterraine de Fordow, eh bien, ils seront à moins d'un an de la fabrication d'une bombe atomique.
C'est une perspective évidemment inacceptable pour Israël, comme pour les monarchies du Golfe d'ailleurs.
Absolument. Donc les durs du régime de Téhéran prennent sciemment le risque d'une confrontation au cours des deux semaines qui viennent. Alors, tout en faisant le calcul que la fenêtre de tir est trop courte pour que les États-Unis puissent organiser une riposte coordonnée, ils estiment qu'ils seraient alors pourtant en meilleure position face à Joe Biden s'il venait à reprendre les négociations et s'il voulait leur imposer de nouveaux compromis, par exemple sur les missiles balistiques. Et c'est également une façon d'obliger le nouveau président américain à placer la question iranienne au nombre de ses priorités. Les sanctions économiques étaient à l'œuvre. L'Iran s'enfonçait dans la crise et Washington pouvait effectivement penser que le temps jouait en sa faveur. Eh bien, clairement, ce n'est plus le cas.
Merci beaucoup Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Aux États-Unis, tous les yeux sont tournés vers l'État de Géorgie où se déroulent deux élections sénatoriales capitales. L'enjeu, c'est l'avenir du Sénat américain et du futur mandat donc de Joe Biden. Si les démocrates remportent les deux élections, alors ils auront la majorité de cette chambre dominée aujourd'hui par les républicains. Et puis assister à un concert de musique classique depuis votre canapé. Vous commencez malheureusement à en avoir l'habitude hein, maintenant qu'on ne peut plus sortir. Sauf que le concert que nous vous proposons ce soir se déroule dans un lieu exceptionnel.
Double magie donc, puisque vous serez au cœur du musée d'Orsay à Paris.
Un beau lieu et de la belle musique, Angèle Châtelier.
20 musiciens de l'ensemble Les Apaches ont joué pendant une heure au cœur de la nef du musée d'Orsay, entouré d'œuvres d'art prestigieuses. Pour le chef d'orchestre Julien Masmondé, il y avait quelque chose de presque mystique.
On avait l'impression de dialoguer avec les œuvres d'art. On a joué, l'orchestre a joué au milieu des sculptures. Bien qu'on joue dans un musée, la musique classique et même les œuvres d'art ne sont pas figées. À travers la relecture, de revisiter toujours des œuvres et de créer de nouvelles, et ben on parle tout simplement de notre temps, on parle de l'histoire, mais on parle aussi de nous-mêmes.
Au programme de ce concert, des œuvres qui interrogent la nature. Histoire naturelle de Maurice Ravel, La création du monde de Darius Milhaud. Car mi-décembre, le musée d'Orsay aurait dû inaugurer l'exposition Les origines du monde, l'invention de la nature au 19e siècle. Alors la vidéo est entrecoupée de tableaux présents à l'exposition reportée sur la voix du baryton Stéphane Degout. Un concert à découvrir sur la chaîne YouTube du musée d'Orsay.
Ben voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir.
C'est ce qu'on va faire ce soir.
Hein, on se branche depuis son canapé sur le musée d'Orsay avec ce concert de musique classique. Merci Isabelle.
À demain.
À demain. Interrogation d'ailleurs sur le musée et sur le concert, hein, demain à 18h.
Oh, la pression.
Merci Isabelle. La météo. Alors pour l'épiphanie, demain, certains auront la chance, écoutez bien le jeu de mots, de manger la galette du soleil.
Bah ouais, c'est bien de manger une petite galette au soleil. Alors on ne sera pas en t-shirt non plus, mais c'est vrai que tout le long de la façade atlantique et au bord de la Méditerranée, eh bien vous aurez la chance demain d'avoir un soleil très généreux tout au long de la journée. Attention tout de même, dans le sud-ouest, pas mal de brouillards matinaux, parfois givrants, mais dès que ces brouillards se seront dissipés, le soleil sera là. Alors ailleurs, c'est autre chose. Hein. De l'Alsace jusqu'au bassin parisien, sur le grand quart nord-est, là le ciel est toujours très couvert, avec même sur la Bourgogne et le centre, quelques petits flocons encore demain. En Bretagne et sur le Cotentin, toujours un temps qui reste instable, agité avec des averses sur le littoral, mais le vent se calme. Et puis les températures, elles restent froides, bien froides, en dessous des normales de saison. Moins 8 à 4 degrés
vous
demain
pas
matin.
Je vais faire 12 encore, ça va m'énerver. Hein.
0 à Marseille et 2 à Paris. Et puis dans l'après-midi, moins 1 à 11 degrés. Nous aurons moins 1 à Langres et 11 pour
et ben
Bastia.
Voilà, et ben voilà,
bon, vous voulez
Bastia.
Que je vous dise autre chose? Allez, petite prévision du week-end. La France sera coupée en deux.
Oui.
Neige et froid oui. Pour la moitié sud, grand et beau soleil printanier pour la moitié nord.
Ah bah voilà,
vous êtes
renversé, comme on dit.
Voilà.
Et vous êtes plutôt pâte feuilletée ou frangipane, vous?
Moi, je suis brioche des rois, parce que je viens du sud. Ah, bah, excusez-moi,
d'accord,
avec les fruits confits.
Demain, dégustation pour tout le monde. Alors, merci Anissa, à demain à partir de 18h.
Europe 1, écoutez le monde changer.